Et voilà, et retrouvez Culture Prohibée en réécoute, ça sera samedi matin à partir de 10h pour la rediffusion habituelle, et sinon dimanche à partir de minuit pour Culture Prohibée, et retrouvez-les également sur internet. Exceptionnellement, aujourd'hui je prends l'antenne à 18h, car on va encore parler de cinéma, puisque ce soir au cinéma Le Majestic, on vous propose de venir voir le film Ça Marche, on est en compagnie de la réalisatrice, avec nous Camille de Casabianca, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, bienvenue à Compiègne, on va parler de votre 10e film. On vient un peu sur la jeunesse du film, comment vous avez eu l'idée de faire ce film sur La République en marche ?
Écoutez, en fait, c'est un hasard. Enfin, je sentais quand même que les choses changeaient en France. J'ai travaillé en Californie, je me disais, il y a quand même des gens qui ont envie de sortir du discours d'il y a 30 ans, de chercher, de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser la société de façon un petit peu différente. Il y avait un besoin dans ce pays. Donc quand j'ai entendu parler de ce mouvement, j'étais un peu à l'écoute. Et après, je me suis retrouvée par hasard dans un bâtiment commun dans le 15e arrondissement, qui allait être détruit d'ailleurs. Donc il y avait des recours et un bailleur louait pour très peu d'argent des locaux à des cinéastes qui ne connaissaient pas leur avenir et à des jeunes qui étaient en marche. Et c'est là que je les ai connus fin 2016. Et ça m'a paru, je les voyais s'agiter, parler, etc. Je les ai rencontrés comme ça et ça m'a paru très romanesque. Et c'est comme ça que je les ai connus.
Donc en fait, pour être réalisatrice, il suffit de regarder à sa fenêtre pour avoir une idée d'un film. C'est comme ça que ça se passe au bout de 20 ans, 30 ans de carrière ?
Non, mais enfin, je pense qu'en fait, il faut se laisser surprendre par la vie et saisir des opportunités. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai rencontré Emmanuel Macron dans le hall, pour moi, c'était pas le président de la République, c'était un jeune type assez entreprenant et je trouvais qu'il y avait une vraie histoire, quoi, qui était racontée. Comme je suis scénariste, oui, j'étais curieuse.
Vous aviez fait en 2010 le film C'est parti, c'était sur la création du NPA, donc la fin de la LCR et la création du NPA. C'était un peu la même envie, c'était un peu la même rencontre que le film Aujourd'hui ça marche ?
Bah écoutez, j'ai fait un film, une comédie qui s'appelle L'harmonie familiale. Donc je raconte un peu toujours la même chose et c'est vrai que l'harmonie familiale, j'aimerais bien qu'elle s'applique aux Français dans leur quartier, dans leur lieu de travail, etc. Et à l'époque, oui, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ces gens, ça s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire, et tout à coup, ils se sont dit, mais en fait, tout ce qu'on raconte, ces idéologies-là, ça ne correspond plus à l'époque. On va se dissoudre et on va créer un nouveau parti. Et c'était une période très gaie pour eux, puisque plein de gens sont arrivés d'horizons différents. Malheureusement, les horizons étaient très différents et ils ont eu du mal à se mettre d'accord. Mais en tout cas, le film est très joyeux. Et puis surtout, c'est un moment qui est saisi et qui est à la fois aussi drôle, divertissant, puisque je fais quand même du spectacle.
Il y a votre fiche Wikipédia qui dit qu'il y a un film qui est en développement qui s'appelle Héros dans l'ombre depuis 2017. Il est d'actualité ce film ou il est parti dans les oubliettes aux enfers ?
Non, vous savez, les cinéastes sont tenaces. Non, c'est une histoire sur le sous-marin qui a libéré la Corse en septembre 1943. Parce que la France a été libérée en août 1945, mais le département de la Corse, grâce à ce sous-marin qui a apporté des armes... s'est libéré beaucoup plus tôt, grâce à la résistance, ce qui existait aussi là-bas.
Donc ça veut dire quoi en développement ? C'est-à-dire qu'il est déjà écrit ? Il y a des choses qui sont filmées ?
Voilà, il est déjà écrit, il est en partie financé. Ah bah écoutez, il y a un suspense, pas seulement dans les films, mais aussi dans la vie des cinéastes, pour savoir ce qu'ils vont réussir à faire. Oui, mais vous savez, Wikipédia, c'est pas nous qui l'écrivons.
Bien sûr, alors. C'est vrai. Pour ça, on vérifie, parfois, on prend des infos dedans, mais on essaie quand même de vérifier les sources, c'est un peu le travail d'un journaliste. Donc là, on voyait que c'était marqué en développement, donc qu'est-ce que veut dire en développement ? On pourra aller modifier l'affiche tout à l'heure ensemble. Là, pour revenir sur le film Ça marche, c'est quoi l'élément déclencheur ? Comment vous avez pu rentrer dans ces réunions ? Comment vous avez pu approcher les militants en dehors de les voir à la fenêtre et de les rencontrer sur le pas de la porte ?
Ah bah, j'ai dû demander une autorisation de tournage, donc je leur ai dit, écoutez, des films sur les campagnes électorales, il y en a beaucoup, certains sont cultes dans le cinéma. Je ne sais pas, vos auditeurs connaissent peut-être des films sur Kennedy, sur Giscard ou même plus récents. Et par contre, des films sur les mouvements ou les partis, il n'y en a pas parce que les gens se méfient terriblement. Donc, ils m'ont dit plutôt oui, mais ils ont énormément discuté. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Et comme leur truc, c'est quand même la confiance, la bienveillance, ils ont pris le risque. Et ils avaient raison parce que mon idée, ce n'était pas de les flinguer, mais de montrer qui ils sont. Pour échapper à cette idée du Macron qui est suspendu en l'air, ou de ces petits jeunes qui sont tous des start-upers en costume devant leur écran de... dans leur, l'écran de leur ordinateur. Donc là, moi, je suis allée dans toute la France et donc on voit ces gens qui discutent, qui se posent des questions, qui débattent, qui se disputent violemment parfois. Enfin, on voit qui ils sont.
Là, le dénominateur commun, c'est l'Europe, puisque c'est vrai qu'il y a un documentaire qui était sorti, qui s'appelait Les coulisses d'une victoire, il me semble, qui est sorti très rapidement après la victoire de Macron, là, qui a été diffusé sur TF1. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah ben, le lendemain de son élection, j'ai vu ça pour la télé, ouais.
Donc là, vous avez choisi, vous, l'angle de l'Europe, en fait.
Ah non, en fait, le documentaire, ça a suivi un homme qui se présentait aux élections. Donc, c'est ce que je vous disais, les films de campagne électorale.
Non, là, mais pour c'est... le vote, du coup, vous avez pris l'angle de l'Europe, parce que du coup,
oui,
l'angle de l'élection,
il était fallait bien avoir une narration, parce qu'un film, ça se raconte. Et donc, je suis arrivée, il y avait des ateliers dans tous les sens. Il y avait des ateliers de formation professionnelle, il y avait des ateliers sur le yoga, sur l'écologie, sur ci, sur ça. Et je me suis dit, mais quel est le dénominateur commun de tous ces gens? Et finalement, c'est leur conviction que pour transformer la France, il faut transformer l'Europe. Donc, le film n'est pas du tout théorique. Hein. J'ai peur qu'on croie ça quand je dis ça. Mais en fait, ils vont frapper à la porte des gens et puis ils essayent de discuter avec eux. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ils leur posent des questions. Et en fait, à travers le film, on s'aperçoit que dans notre vie, il y a énormément de trucs qui sont financés par l'Europe.
Par exemple, l'agriculture. C'est la chose qu'on connaît le plus souvent.
Oui, mais même les métros, les tramways, les maisons de la culture. Écoutez, je ne suis pas une spécialiste. Il faut demander à votre mère. Mais c'est assez important et les gens ne s'en rendent pas compte. Et aujourd'hui, quand même, l'Europe est un peu en danger. Mais enfin, encore une fois, c'est une histoire humaine. Et j'étais fascinée par ces gens qui tout à coup, la plupart n'ont jamais fait de politique. Et tout à coup, voilà, ils ont envie de se mobiliser et voilà.
Tout au long du film, vous faites un parallèle avec les Gilets jaunes. Alors, comment on écrit le film? Est-ce que le film s'écrit de lui-même ou est-ce que vous partez d'un départ et ensuite vous avancez dans l'histoire et puis à la fin, vous avez une histoire qui est complète?
Là, il y a quand même un ordre chronologique puisque j'ai commencé en mars 2018. Et là, ils commençaient leur porte-à-porte pour demander aux Français. Ils ont quand même fait 230 000 questionnaires. Et ensuite, on voit dans le film comment ils analysent les données. Je pense que tous les partis politiques vont finir par faire ça, mais en tout cas, c'est les premiers. Donc, ils mettent ça dans des machines. Les gens, ils posent des questions très précises. Et ensuite, ils voient tout ça, qui dit ça. Les jeunes sont plutôt pour l'écologie, les vieux pour ci, pour ça. Donc, on suit chronologiquement. Et effectivement, je dirais, enfin, c'est un peu ironique, mais que j'ai eu de la chance parce que les Gilets jaunes sont arrivés. Et du coup, la fin du film, ils se retrouvent sur les ronds-points. Et donc, en fait, on s'aperçoit que... le mécontentement des Gilets jaunes, eux, c'est aussi un mécontentement, les gens d'En Marche, des partis politiques traditionnels. Donc tout ça se mélange, tout ça est assez confus, mais pour le film, c'est bien parce que voilà, il y a de l'action, les gens parlent entre eux et je voulais témoigner de ça.
Un film qui fait 90 minutes, il y a combien d'heures de travail derrière, combien d'heures de rush, combien de semaines de tournage?
Écoutez, c'est un tournage sur un an, mais on ne tourne pas tous les jours. Et les gens me posent souvent la question du nombre d'heures de rush. En général, je tourne assez peu. Mais là, c'est vrai, comme c'était intéressant, la caméra tournait plus longtemps. Mais je ne sais pas, je dirais 40. Mais ça ne veut rien dire aux gens. On me demande ça et combien ça a coûté. Donc ça, c'est assez vague aussi. Enfin.
Souvent, on imagine des réalisateurs ou des gens qui font des films de prendre des heures et des heures et des heures de rush pour ensuite tirer un condensé. Vous, ce n'est pas le cas. 40 heures pour arriver à 90 minutes.
40 heures, pour moi, c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup ?
Oui. Mais je vais vous dire, moi, j'ai commencé à filmer en pellicule argentique. Et donc, si vous voulez, ça coûtait très cher. Et donc, quand on avait les acteurs, tout ça, on répétait énormément, mais même en documentaire. Parce que quand on appuyait sur le bouton de la caméra, il y avait une intensité, il y avait un côté sacré qui était intéressant. Alors qu'aujourd'hui, je le dis aux gens qui font des films chez eux et qui nous écoutent, les gens, ils tournent trop, quoi. Il faut tourner quand c'est intéressant, parce qu'après, ils ont des heures, mais même des souvenirs de famille. Et du coup, personne ne les regarde. Alors que si vous en tournez moins, tout à coup, vous pouvez les monter. Vous faites un petit film de 20 minutes que vous envoyez à votre maman pour son anniversaire.
Quelles sont les choses que vous avez vues que vous n'avez pas pu mettre dans le film? Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a interdit de mettre dans le film? Est-ce que quelqu'un a regardé le film pour le valider ou on vous a laissé libre cours.
Non. Alors bon, comme j'étais indépendante, bon, je sais que par exemple, la France Insoumise a produit un film avec son argent. Bon, moi, j'ai souhaité être indépendante, donc effectivement, il y avait zéro droit de regard. Et d'ailleurs, peu de salaire pour moi. Non, je rigole. Mais oui, ils ont vu le film. Ils ont vu le film.
Il n'y a pas eu de demande particulière?
Non. Et sur le tournage, je vous avouerai que parfois, il y avait des inquiétudes dans les réunions avec les ministres, etc. Mais en fait, c'était sur des choses qui, eux, leur paraissaient très importantes, mais qui n'avaient aucun intérêt pour le public. C'était des détails de réunions avec machin, des choses assez techniques sur la campagne européenne. Mais je dois vous dire aussi... Et aux vos auditeurs, que tous les gens qui sont dans un film, que ce soit des acteurs ou des gens qui apparaissent dans le documentaire, ils signent une décharge. Donc personne n'est pris. Et s'ils sont pris et qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent faire un procès et arrêter le film. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a des séquences, mais ce n'est pas avec des marcheurs, de gens que... Notamment quand les marcheurs font du porte-à-porte, il y avait une dame formidable. Et puis je suis retournée la voir, parce que sur le tournage, je n'ai pas eu le temps de la faire signer. Et elle a refusé, donc je suis allée la voir, je prenais le café avec elle, je passais, en plus, j'allais au laboratoire tous les jours, et elle n'a jamais voulu. Et j'étais triste, mais bon, voilà, c'était sa volonté.
Comment on gagne la confiance, du coup, des marcheurs, et puis aussi des gens qui apparaissent dans le film? Comment, là, à part boire le café, est-ce qu'il y a une technique particulière?
Ah non, boire le café, c'était après. Non, en général, pourtant, je suis quelqu'un d'assez exubérant, et j'ai fait du cinéma, j'ai été actrice aussi. Mais là, non, au contraire, je disparais. Je ne regarde même pas trop les gens dans les yeux, parce que s'ils deviennent copains avec moi, après, ils se tournent vers la caméra, ils s'adressent à moi. Or, moi, dans le film, je ne fais pas vraiment de différence entre fiction et documentaire, parce que je ne fais pas d'interview, il n'y a pas de commentaires. Donc voilà, on se plonge, c'est un peu une immersion pour le spectateur dans un endroit où il n'a pas le droit d'être, et il est là. Et en fait, je me fais oublier, quoi.
On arrive à se faire oublier, malgré la caméra?
Bah, vous savez, je pèse 47 kilos, la caméra, elle n'est pas très grosse. Et donc, non, c'est vrai que je suis discrète et
ça fonctionne.
Ça fonctionne, ouais.
On va écouter un extrait musical de la programmation de Graphite. On va écouter Biche avec le titre Kepler Kepler. Et je vous rappelle que la projection du film, c'est à 20h ce soir au Majestic. Et ensuite, il y aura un débat avec les réalisatrices. Donc venez. Et tout de suite, Kepler Kepler et le titre Biche sur les ondes du 94.9. Kepler avec ce titre Biche qui est rentré en prog sur Graphite. Et d'ailleurs, il y a plein de titres qu'on a rentrés cette semaine. Et n'oubliez pas, ça continue le festival Picardie Forever du 20 au 29 septembre et samedi, enfin un peu soirée spéciale, puisque le Temps qui Fuzz, donc La Fusée, vous propose une date avec Bandi. Pareil, Bandi, un titre qui tourne assez régulièrement. On continue de parler cinéma. On est toujours en compagnie de la réalisatrice Camille de Casabianca, et on parle du film Ça marche, qui sera projeté ce soir au Majestic à 20h pour un ciné-débat. Donc bah, rejoignez-nous juste après l'émission, on part direction le Majestic. Et les tarifs, c'est 6,50€ et 6€ en tarif réduit. Il n'y a pas de pub avant la séance, donc arrivez à l'heure. Et ensuite, on restera après le film pour pouvoir discuter avec la réalisatrice et vous poser des questions, puisque moi, je vous pose des questions, mais du coup, le public aura la chance de vous interroger. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent qu'on vous pose? Est-ce qu'on vous demande si vous êtes peut-être devenu macroniste ou pas?
Oui, c'est vrai. Alors bon, j'avoue que moi, j'ai fait un travail de cinéaste, parce que quand même, on rigole, mais c'est tendre. J'ai envie de dire, mais bon, les autres gens qui viendront ce soir n'ont peut-être pas vu mes autres films, mais en fait, je pense qu'un cinéaste, il fait toujours le même film. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai fait un film qui s'appelait L'harmonie familiale. Donc, on est en famille, mais dans les familles, il y a toujours des petites disputes, etc. Parfois, des grosses disputes, mais on essaye de vivre ensemble. Donc, c'est ça qui m'a attirée. Et c'est vrai que j'ai fait un portrait des marcheurs. Hier soir, à Laon, il y avait quelqu'un qui m'accusait d'être pro En Marche. Alors, effectivement, j'ai filmé ces gens à droite, à gauche. Et si vous voulez, ça m'intéressait parce que en France, voilà, les gens ont rejeté les partis traditionnels. Donc, ils essayent quelque chose. Et parfois, on rit dans le film parce que, voilà, c'est un peu maladroit, mais on rit avec tendresse.
C'est filmé avec bienveillance, en fait. C'est ça, c'est pas à charge.
Non, c'est pas à charge, mais c'est pas non plus un film de propagande. Voilà, c'est qui sont-ils? Il n'y a pas d'image d'eux, en fait. À la télé, on voit des ministres, on voit Macron, on voit... Mais qui sont-ils? Ils sont 420 000 et en plus, ils ont des sympathisants. Voilà, il y en a à Compiègne, il y en a dans l'Aisne, il y en a à Amiens. Moi, j'ai tourné en Corse, j'ai tourné en Côte d'Or, j'ai tourné dans l'Hérault, j'ai tourné... je me souviens plus de...
En Picardie. Dans l'Aisne.
Oui, ouais. Oui, dans l'Aisne. J'ai tourné... Bon, je me souviens plus de tout, mais... À Paris aussi, dans leur siège...
Du coup, vous avez une vision sur le futur de La République En Marche et comment elle va... Parce que vous avez fait du coup sur le NPA qui est un petit peu périclité et qui a été un peu
J'espère
avalé...
J'espère ne pas porter malheur au parti politique. Au mouvement que je filme. Écoutez, c'est difficile à dire. Voilà, c'est un parti qui a 2 ans. Mais pour le film, ce qui est vraiment différent, c'est que c'est un parti au pouvoir. Et donc, si vous voulez, le problème en France, c'est si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Si tu fais un truc sur des gens au pouvoir, eh ben, il faut les flinguer. Si tu fais un truc sur les pauvres, qu'ils soient formidables. Enfin, je suis un peu polémique en disant ça. Mais en fait, les choses sont un peu plus complexes, quoi. Et là, il y a tous ces gens qui se sont réveillés. Bon, maintenant, leurs représentants sont au pouvoir. Tout le gouvernement n'est pas en marche non plus. Il faut faire attention. Le Premier ministre, il vient de la droite. Et donc, moi, je jette juste un regard sur qui sont ces gens et les questions qui se posent. Et c'est joli parce que, si vous voulez, c'est visuel. Je voudrais dire aussi, par exemple, qu'il y a une grande diversité. On voit énormément de gens d'origine africaine, d'origine maghrébine. Il y a beaucoup de femmes dans les responsables. Pour moi, qui suis cinéaste, voilà, c'est ça, je montre ça. Et c'est vrai, quand je vois Sibeth Ndiaye avec sa grosse
chevelure
afro qui fait le compte-rendu du Conseil des ministres, en tant que photographe, en tant que cinéaste, je me dis, voilà, les choses changent. Et dans la parole de ces gens, vous verrez dans le film, il y a aussi dans la façon dont ils s'expriment des hésitations, on sent que ce n'est pas le discours. Alors, bien sûr, il y en a qui sont venus d'autres partis, et on les voit aussi, on voit des ministres, et on voit tout de suite la différence entre ceux qui découvrent, qui essayent d'élaborer, qui se posent des questions, et qui hésitent, et qui se trompent, et qui l'avouent. Enfin bref, c'est tout ça, c'est une dynamique et le cinéma, c'est à propos de dynamique.
Et vous l'expliquez comment, du coup, cette prise de position, du coup, de femmes noires, d'Africains, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait de la place, qu'on leur laissait de la place ou
Je pense que oui, il y a un plafond de verre quand même en France. Donc, c'est quand même des gens qui ont envie de bien vivre, qui ont déjà un petit peu, je pense, la possibilité de réfléchir, donc de se dire qu'ils veulent aider les autres et qui ont trouvé un accueil là, je pense. pense, une des personnes qu'on voit dans le film et qui conclut le film, puisqu'il est dans une réunion à Château-Thierry, là, où il va rencontrer les gens. Après, on le voit aller sur un rond-point et qui est un noir d'origine sénégalaise. Ben, lui, il était prêt à partir aux États-Unis. Il avait monté une pizzeria dans les Yvelines, voilà, pour aider sa mère et tout ça. Mais il avait un peu envie de faire de la politique. Et dans les autres partis français, enfin, il sentait qu'il n'y arrivait pas. Et puis, quand En Marche s'est créée, il a envoyé un mail. Des jeunes lui ont dit de venir le rencontrer. Et il s'est aperçu que c'était des jeunes qui voulaient se faire élire au bureau des élèves de HEC 10 ans avant et qui lui avaient proposé de donner les pizzas gratuites pendant leur campagne électorale et qu'après, pendant toute l'année, ils pourraient faire des trucs avec eux. Et après, ils ont aussi allé dans les quartiers distribuer des pizzas. Donc, ils se sont retrouvés. Et lui, il a annulé son départ avec sa famille aux États-Unis et il a décidé de rester et de se dire « Bon, bah, peut-être que finalement... Ça va bouger un petit peu pour moi. »
Et vous prenez des nouvelles, du coup, des protagonistes du film ? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours marcheurs ? Est-ce qu'ils se posent des questions ?
Ah bah, le film, je l'ai fini là, au mois d'avril. Donc, bon, a priori. Et puis, comme je le présente à droite, à gauche, en France... Donc voilà, là je suis venue dans l'Aisne parce que j'ai tourné dans l'Aisne, donc je vais aller les voir, a priori. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui s'en vont, enfin c'est pas trop mon souci, et puis...
Non, mais est-ce que vous attachez du coup au personnage et qu'ensuite vous prenez des nouvelles, vous envoyez des SMS ou ce genre de choses ?
Est-ce que
le rapport entre un réalisateur et puis des personnages, des protagonistes d'un documentaire, est-ce que ça continue comme ça ? Est-ce que après, une fois qu'on a fini le film... Hop, on passe à un sujet différent.
Là, c'est trop tôt. Là, le film sort, donc ils viennent se voir. C'est très sympa. Bon, maintenant, c'est vrai, nous, notre vie de cinéaste, à chaque fois, on pénètre un milieu différent. Vous voyez, récemment, voilà, j'ai plongé dans un sous-marin. Très, très peu de gens. Il y a quelques femmes qui vont être autorisées à partir de l'an prochain, mais dans les grands sous-marins.
Ça porte malheur, c'est ça ? C'est comme sur les bateaux.
Non, mais c'est tellement petit, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, que quand on croise un homme dans le couloir, on se frotte contre lui. Donc j'ai eu cette chance-là et j'ai été accueillie par l'équipage et tout. Bon, maintenant, si je fais le film, je serai amenée à être en contact avec ces gens-là, qui sont très particuliers, hein. Et donc, mais après, je sais pas, écoutez, moi, mais j'ai gardé des amis de certains tournages, que ce soit des acteurs ou des participants.
Ça serait quoi votre film idéal si vous avez tout l'argent que vous avez besoin ? Est-ce qu'il y a un sujet idéal que vous dites depuis des années ? J'aimerais bien tourner ce film, j'aimerais bien partir à tel endroit. Je sais que vous avez tourné du coup en Asie, en Afrique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir si on avait une baguette magique là ?
Bah écoutez, en fait, moi je crois pas trop aux baguettes magiques, mais peut-être que je suis trop réaliste, mais en général, pour l'instant, j'ai fait que ce que je voulais. Mais c'est aussi parce que je fais des films de budget raisonnable, hein. C'est sûr que, voilà, j'ai fait un de mes films que j'ai tourné dans ma cuisine, qui au demeurant a été quand même vu, qui s'appelle « Le fabuleux destin de Madame Pettley ». Et en fait, Walt Disney m'a téléphoné. J'étais, comme j'ai une petite société, il était 10h du soir, il me dit « Allô, ici Hollywood, il faut que vous veniez tout de suite ». Et j'ai cru que c'était une blague d'un copain. J'ai dit « Bon, arrête », etc. Et le type « Non, we are very serious, we want to buy the remake rights of your film ». Et donc, je suis partie à Los Angeles. Je suis restée là-bas, effectivement, 3 mois. Voilà, c'est des ponts d'or, etc. J'ai vendu les droits de remake du film. Ils voulaient que je fasse un autre film là-bas. Et puis, au bout d'un moment, d'abord, c'était passionnant. Mais c'est vrai que le soir, tout le monde se couchait à 8 heures. Nous, en France, on peut quand même aller au bistrot, discuter. Donc, je ne sais pas, j'ai eu le bourdon, j'ai eu le mal du pays. Et pour conclure, je vous dirais que le scénariste du film américain qu'ils allaient refaire... m'a dit, écoutez, moi j'ai 40 ans, voilà, je gagne plein d'argent, j'ai 2 voitures, une belle villa à Malibu, mais je n'ai eu aucun film porté à l'écran. Donc je me suis dit, mais rentrons en France, faisons des petits projets, comme on le voit dans le film sur En Marche, faisons des trucs près de chez nous, voyons les spectateurs, et donc voilà. Donc le prochain film que j'ai envie de faire, ce film sur le sous-marin, je croise les doigts, c'est pas un truc non plus délirant. Hein.
Il vaut mieux avoir un film, pas du tout, est-ce qu'il vaut mieux avoir ? Est-ce que du coup le film là, c'est un film un peu qui va marquer l'histoire ? Aujourd'hui c'est un instant T, hein, vous filmez un instant T. Est-ce que justement vos films vont marquer l'histoire et vont avoir une vie dans l'histoire et peut-être avoir une deuxième vie dans 10, 20, peut-être 30 ans, peut-être à Sciences Po ou ce genre de choses ?
Bah, écoutez, je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais j'ai fait mon, mon premier film qui s'appelle Pékin Central en Chine. Et il est ressorti en 2008 en salle, ce qui est assez rare. Il est actuellement, bon, on s'occupe de ça parce qu'en film, il est, en Chine, il est ultra piraté. Donc, il a une deuxième vie là. Le film que j'ai fait avec Olivier Besancenot en 2010, donc il y a 9 ans, il est étudié dans les facs de sciences politiques. D'autres films que j'ai fait, voilà, non, continuent à exister. Pas tous, mais après, bon, on espère, mais bon, là, j'ai pas envie d'être enterrée tout de suite, que par la suite, on fait attention après à l'œuvre d'un cinéaste. Pour l'instant, moi, ce ne sont que tel ou tel film qui traverse l'histoire. Mais j'ai bon espoir qu'un jour, on dira, c'est du Casabianca.
Donc là, le film est sorti en 86, c'est ça, le film sur la Chine ?
Voilà.
Ouais. Et ressorti en 2008.
Je précise ouais. qu'à l'époque, les cinéastes commençaient à faire des films très jeunes.
Est-ce que vous avez quel âge aujourd'hui ? Vous êtes dans les années 50, 60 ? 60, je crois, c'est ça ?
Ouais,
ça
vous êtes dur avec moi.
Non,
ouais,
60.
Non, 60.
On en a parlé cette nuit, je crois que c'était 60, si je me souviens
cette
bien.
Cette nuit ?
Enfin, en rentrant de la séance de cinéma de l'an, évidemment. Là, on va revenir un peu sur le film qu'on pourra, vous retrouver ce soir. Du coup, je perds mes moyens. On vous retrouvera ce soir au Majestic à Compiègne. C'est, les premières projections, ça a été où ? C'était dans quelle ville ?
Bah écoutez, c'était Paris. C'est toujours comme ça.
Donc et là, puis... c'était pour un public lambda ou c'était des professionnels, des journalistes ? C'était,
Y a une avant-première, donc il y a des gens invités, mais il y a aussi des gens du public qui prennent leur place. Donc c'était assez mélangé. C'était au cinéma des cinéastes. Et les débats sont assez animés, hein. Je préviens le public, mais en général, c'est géré par quelqu'un et c'est assez sympathique. Et à la fin, on se serre tous la main. Et là, non, mais là, le film est sorti le 11 septembre. Hein. Donc voilà, hier soir, j'étais à Lens, au Ciné Lens, donc accueilli par Madame Valérie, qui tient très bien son cinéma. Et ce soir, je vais rencontrer l'équipe du Majestic.
Donc là, des spectateurs pro-Macron et des spectateurs hostiles un peu à Macron lors de cette soirée.
Oui, qui arrive un petit peu agressif, mais à la fin, on s'est serré la main quand même.
Donc le public, en fait, c'est ça aussi la rencontre, c'est ça le cinéma, c'est de pouvoir créer des... Est-ce que ces personnes-là se seraient rencontrées ailleurs dans la vraie vie, ailleurs qu'au cinéma
Je l'espère, mais en tout cas, le film, il est fait pour ça quand même. Parce que je pense que les gens en ont marre de cette hostilité. Ils ont envie de faire des trucs qui marchent.
Donc vous créez des ponts.
Oui, écoutez, tant mieux. Enfin, le film crée des ponts.
On va réécouter un deuxième morceau, on écoute Jungle by Night et ce sera presque la fin de cette interview. On se retrouve tout à l'heure à partir de 20h au Majestic, on vous rappelle du coup les horaires. 20h Majestic à Joe et donc le film c'est 6,50€ pour le tarif plein et 6€ pour le tarif réduit. Arriver à l'heure parce qu'il n'y a pas de pub avant les séances ciné-débat. Et on écoute Jungle by Night. Jungle by Night sur les ondes de Graphite 94.9, un peu exceptionnellement aujourd'hui, je prends l'antenne en direct, 18h29 sur l'horloge du studio. On est toujours en compagnie de Camille de Casabianca, réalisatrice, cinéaste, artiste, écrivaine, actrice. Je pourrais en mettre plein comme ça derrière, c'est ça, ça ne termine jamais.
Oui, mais en France, on aime bien que les gens fassent toujours la même chose. Non, mais je suis cinéaste, hein. Je présente ce soir à Compiègne mon 10e long métrage.
C'est quoi comment on qualifie un cinéaste? Alors du coup, c'est quoi la différence avec...
Oui, les gens savent pas trop. Bah, cinéaste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un film, donc qui est le réalisateur, mais souvent ça veut dire qu'il a aussi écrit. Et dans un certain nombre d'entre nous, on est aussi producteur, un coproducteur. Donc là, j'ai un coproducteur voilà, qui s'appelle Denis Fred et qui a produit Les Frères d'Ardenne, qui a produit tout un tas de films. Donc il m'a aidé aussi à boucler le film.
Est-ce que vous changeriez quelque chose aujourd'hui sur le film maintenant qu'il est en salle? Est-ce que...
Pas du tout, je suis très contente d'ailleurs à l'approche de toutes ces querelles, etc., sur l'immigration et tout. Je pense qu'il est au contraire d'actualité, parce qu'on voit les gens quand même se prendre le chou, les marcheurs entre eux, sur ces questions-là, et on comprend toute la complexité que c'est d'être un parti au pouvoir à travers des questions comme ça assez précises.
Là, vous l'avez tourné avec le prisme, hier c'était un peu la question, le prisme de Paris, où malgré que vous ayez été en province, enfin en province, même là en grande province, puisque jusqu'en Corse, est-ce que du coup vous pensez avoir une vision parisienne ou...
Non mais pas du tout, mais moi d'abord je suis d'origine corse, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai tourné en Afrique, j'ai tourné en Asie, j'ai tourné en Alaska, j'ai tourné en Amérique du Sud, non. Non, bah écoutez, moi je suis un auteur, donc je regarde et je montre ce que je vois. Alors il n'y a pas d'objectivité, mais ça n'a rien de parisien.
C'est quoi du coup la vision parisienne d'après vous? Comment on pourrait la qualifier?
Écoutez, c'est pas moi qui utiliserais ce terme, je sais pas. Je crois que les gens fantasment un petit peu la vision parisienne. C'est quoi? Enfin, vous avez vécu à Paris, dites-moi, c'est quoi?
Bah, je sais pas, justement, c'est moi qui pose les questions. On n'inverse pas les rôles, sinon je vais me mettre à faire des films. Donc là, ce soir, on vous retrouve au Majestic. Ensuite, il y a encore une tournée avec des rencontres, des débats. Est-ce que vous allez être sur la route?
Oui, je vais être sur la route, voilà, mais c'est toujours très agréable. C'est des moments où on rencontre le public. Et puis, ils nous parlent aussi, pas seulement de notre film, mais du cinéma, de ce qu'ils attendent pour l'avenir. Ça nous permet aussi de nous reconnecter. Et puis, c'est vrai qu'autant, par exemple, les lecteurs, ils rencontrent beaucoup les auteurs dans les salons du livre qui sont à une petite table. Les cinéastes, c'est plus rare. Donc il y a beaucoup d'échanges et moi, j'adore ça.
On vous retrouve ce soir à 20h au cinéma Le Majestic. Il est 18h32. On va se quitter, on va monter direction Jo. On vous rappelle que c'est donc à 20h pour la énième fois, que c'est 6,50€ si c'est le tarif plein, 6€ pour le tarif réduit. Et ensuite, est-ce qu'il y aura une sortie DVD ou vous y pensez?
Le DVD, où il y aura une petite sortie DVD, mais après, c'est en VOD. Mais enfin, il ne faut pas dire ça aux gens qui avaient l'intention de venir ce soir.
Non, mais pour la suite...
Mais après, ça passe... Vous savez, enfin, en tout cas, je touche du bois, mais tous les films que j'ai faits finissent par passer à la télévision. Mais dans 3 ans, c'est un suivi normal. On ne peut pas couvrir tout le territoire comme ça. Mais en fait, l'acte de naissance... Voilà, le baptême, si on peut utiliser un mot religieux du film et tout, c'est la salle, quoi.
Et du coup, le fait que ça passe sur un petit écran, pour vous, c'est différent que sur une toile de cinéma ou...
Ah oui, moi, j'ai rien contre, je suis pas snob, mais c'est vrai que moi, je travaille pour le grand écran. Quand je cadre, j'imagine ça en grand. Enfin, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai jamais travaillé pour la télévision. Bon, ça s'est trouvé comme ça, je suis dans cette boucle-là. Mais c'est vrai que c'est différent, puis d'être tous ensemble dans le noir pour regarder quelque chose, il y a une émotion, c'est différent, voilà, je ne vais pas juger.
Et avant de se quitter, est-ce que vous avez un conseil à nous donner, question cinéma, à part votre film, à aller voir, ou même une série?
Eh bien écoutez, moi j'ai vu le film Les Misérables, là, qui sort fin novembre, et je trouve que maintenant, voilà, il y a des territoires du cinéma qui ne sont pas exploités par la profession du cinéma. Et là, on voit des gens qui sont à Montfermeil, dans la banlieue parisienne, et qui ont pris les choses en main et qui ont fait ce film que j'ai beaucoup apprécié.
Camille de Casabianca, merci beaucoup d'être venue dans nos studios et devant mon micro. On vous donne rendez-vous donc pour les auditeurs ce soir à 20h au Majestic. Et ben nous, on vous remet la programmation habituelle de Graphite. Bonne soirée et on se donne rendez-vous demain à 7h30 pour la matinale. Et demain, je reçois des créateurs de vêtements. Ça s'appelle Tintu Closing. Ils viendront vous parler de tout ça demain matin à 7h30. Merci.